France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Comment cultiver sa bonne humeur? C'est la gageure en ces années 2020, marquée par une crise sanitaire qui a causé dépression et anxiété, la guerre en Ukraine, les risques de conflit avec la Russie, le dérèglement climatique qui s'accélère, la fièvre inflationniste, le repli identitaire, bref, les raisons d'être de bonne humeur se font rares. Mais qu'est-ce qu'être de bonne humeur exactement? Est-ce un trait de caractère ou un filtre rose sur une réalité entre gris clair et gris foncé? Être de bonne humeur, est-ce la même chose que d'être gai ou joyeux? Rire est-il l'un des piliers de la bonne humeur? Nous verrons également ce qu'est l'humeur, forcément variable comme la météo, au cours d'une même journée. Et puis nous nous demanderons s'il faut forcément se forcer à cultiver la bonne humeur. Je sens que l'un de nos invités, le philosophe et romancier Frédéric Schifter, a un avis assez tranché sur cette question. Une émission ce matin en partenariat avec Philosophie Magazine. Et vous, parvenez-vous à cultiver votre bonne humeur en ce moment? Et racontez-nous ce qui vous met vraiment de bonne humeur. Pour ma part, en ce moment, c'est de faire du pain et des brioches maison. Nous vous attendons au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Ne riez pas, Éric Libio, bonjour.
Bonjour, je me demandais si manger vos brioches allait les mettre de bonne humeur ou pas. Je suis pas sûr.
Éric Libio, bien connu pour sa bonne humeur légendaire, quel est le menu de vos choses presque vues?
Eh bien, écoutez, je vais parler de la Marseillaise et des transports en commun.
Oh là là, bon, mais ça promet. Et vous retrouverez notre chère Marie Laure Zonshine de Femme Actuelle la semaine prochaine. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Monseigneur a l'air d'être bonne humeur ce matin.
Bonne humeur? Non, je ne suis pas de bonne humeur. Vous savez très bien pourquoi.
Ne te fâche pas.
Qu'est-ce que vous voulez, vous?
Coucou.
Non, non, écoutez, je n'ai pas envie de jouer, je vous assure.
Je ne peux pas supporter de front votre mauvaise humeur et la hausse du mercure.
D'abord, je vous demande une chose, n'est pas m'adresser la parole avant 10 heures de soir.
Monsieur le commissaire.
Oui. Qu'est-ce que vous voulez, vous?
Victor, ton café.
Non, là.
Que j'ai une mauvaise humeur.
Et toi? Franchement, écoutez, cessez d'en faire la gueule.
Montage signé Claire Destacan. Comment cultiver la bonne humeur quand on est souvent de mauvaise humeur, à l'image des nombreux personnages interprétés par Louis de Funès. Bonjour Michel Etchaninoff.
Bonjour.
Vous êtes agrégé, docteur en philosophie, normalien, journaliste, essayiste. Vous êtes co-rédacteur en chef du mensuel Philosophie Magazine avec à la une Comment cultiver la bonne humeur. Bonjour professeur Michel Lejoyeux.
Bonjour.
Médecin psychiatre à l'hôpital Bichat à Paris, professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'université Paris Cité. Et vous avez publié au livre de poche, Les quatre saisons de la bonne humeur. Bonjour Olivia Gazalé.
Bonjour Ali.
Vous avez enseigné la philosophie pendant 25 ans à Sciences Po et vous publiez chez Segers un livre passionnant, Le paradoxe du rire, sous-titré Et si ce n'était pas toujours drôle. Bonjour Frédéric Schifter.
Bonjour.
Écrivain en duplex de Biarritz, philosophe, auteur de nombreux livres, dernier ouvrage paru, c'est un roman, Retrécissement au cherche-midi. Professeur Michel Lejoyeux, avant de parler de bonne ou de mauvaise humeur, qu'est-ce que l'humeur d'un point de vue psychologique et psychiatrique?
Vous savez, il y a une formidable définition de Jean Delay. L'humeur, c'est facile à comprendre. Quand on se réveille le matin, on sait si on est d'une humeur exécrable ou de bonne humeur. Mais c'est difficile à définir précisément. Cette idée facile à comprendre, difficile à définir. Puis vous savez, les médecins, ça définit plus les maladies que les états sains. Quand on définit la santé, c'est souvent l'absence de maladie. Finalement, la meilleure définition pour moi, en tant que médecin de la bonne humeur, c'est de ne pas être trop malade. Vous voyez, c'est de ne pas être dévoré d'anxiété, c'est de ne pas être traversé d'une dépression, d'une perte d'envie, d'une perte de l'estime de soi. Mais si je devais le dire comme ça, cultiver sa bonne humeur, pardon de vous dire, je ne suis pas forcément très bon là-dessus, puisque peu de gens viennent me voir en consultation en me disant, dites-moi, j'aimerais bien que vous m'aidiez à être de bonne humeur. Mais plein de gens viennent me voir quand ils ont une mauvaise humeur, c'est-à-dire une dépression, et qui veulent qu'on la traite. Alors, ne nous laissons pas aller, vous voyez, dans cette mauvaise humeur superficielle dont on dit c'est génial. Il y a en France 10% de la population atteinte d'une maladie qui s'appelle la dépression et qui est la mauvaise humeur. Mais ça n'empêche pas que quand on est de bonne humeur, on est moins déprimé.
Pourquoi préférez-vous la bonne humeur au bonheur?
Parce que déjà, la mauvaise humeur et la dépression, il y a des critères, je sais ce que c'est. Le bonheur, peut-être vous, Ali, vous en avez des critères, mais moi je ne les connais pas. Et finalement, l'absence de maladie, c'est quand même ce qui contribue à la santé. Il n'est pas du tout évident que le bonheur rende de bonne santé, mais par contre, la bonne humeur, oui. Vous savez, quand vous êtes de mauvaise humeur, votre cœur s'accélère, vous respirez plus fort, vous êtes comme si un ours vous attaquait, c'est-à-dire vous mettez, s'il devait vous attaquer, il faut diminuer sa coagulation. Donc vous augmentez votre risque de maladie cardiovasculaire, votre risque de maladie auto-immune. Finalement, vous agacez, j'allais dire, vous gavez votre entourage avec votre mauvaise humeur.
Et quand vous êtes de mauvaise humeur, vous produisez, le corps, l'organisme produit davantage d'hormones comme le cortisol, comme l'adrénaline, qui sont délétères pour notre santé à moyen et à long terme et qui créent du stress chronique.
Absolument. L'adrénaline, c'est indispensable. Si vous n'avez pas un petit coup d'adrénaline quand vous rentrez en studio, vous n'êtes pas au maximum de vos possibilités et on vous reconnaît pas avec votre génie habituel. Mais si vous avez de l'adrénaline tout le temps, même le soir, même quand vous n'êtes pas à l'antenne, là, ça devient toxique et là, vous faites du mal à votre corps. Et quelqu'un de mauvaise humeur, c'est un peu ça. Ce serait quelqu'un qui serait en permanence, en situation de performance et se disant en plus, je n'y arrive pas.
Michel Etchaninoff, la gaieté et la joie sont-elles des synonymes de la bonne humeur ? La bonne humeur semble beaucoup moins grandiose que le bonheur ou la joie.
Ouais, c'est-à-dire que les philosophes, ils sont beaucoup concentrés sur le bonheur, en essayant de donner des définitions. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont pu en disant que c'était un état stable, où on manque de rien, mais l'idée, c'est que ça dure très longtemps. Bon, alors ça, c'est vraiment compliqué. La joie, c'est un concept aussi qui a été développé, par exemple, par Spinoza, qui a dit quand on sait goûter un instant, c'est comme pour l'éternité, on a une forme de joie. Nous, on s'est dit à Philosophie Magazine, là, en construisant le dossier, on se dit, bon, bah, le moment, il est pas vraiment au bonheur et à la joie. Vous vous souvenez, en début d'année, quand on devait formuler nos vœux, bah, on avait du mal à dire « je te souhaite tout le bonheur possible », etc. Et à ce moment-là, je suis tombé sur un texte du philosophe Alain qui dit « bah moi, je vous souhaite qu'une chose pour la bonne année, pas de bonheur, pas de joie, juste la bonne humeur ». Alors, c'est passé un peu sous les radars des philosophes, la bonne humeur, parce que effectivement, c'est moins conceptuel, ça change tout le temps, comme l'a dit le professeur des Joyeux, c'est compliqué à atteindre, il faut jamais être tout le temps de mauvaise humeur, tout le temps de bonne humeur, etc. Donc, c'est vaporeux, c'est impressionniste, et pourtant, bah, dans notre quotidien, c'est quand même essentiel d'avoir une humeur au moins un peu égale. Et donc, on a essayé de se pencher sur ce phénomène qui est, oui, moins grandiose, moins facile à définir, mais qui est dans nos vies essentielles. Et un mot sur la gaieté. Alors, la gaieté, c'est un mot que j'aime bien. Alors, c'est vrai que c'est moins la grandiose que joie ou bonheur. Moi, je pense toujours à mon écrivain préféré, c'est Dostoïevski, qui dit dans un roman, vous savez, une vie vivante, c'est une vie pas ennuyeuse, une vie assez gaie. Et je trouve que c'est une belle définition de la vie, en fait. C'est-à-dire, c'est, il n'y a pas d'énormes ambitions, mais au fond, qu'on s'ennuie pas, qu'on soit à peu près gai et de bonne humeur, c'est synonyme. Et ça veut dire traverser la journée de la meilleure manière possible.
Michel Etchaninoff, cela pourrait paraître indécent de cultiver la bonne humeur par gros temps, pour reprendre le titre d'un beau livre de Jean Salem, Le bonheur ou l'art d'être heureux par gros temps, voilà, entre la guerre en Ukraine, la fièvre inflationniste, le repli identitaire, les risques de conflit avec la Russie, on pourrait se dire cultiver la bonne humeur, bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment.
Bah, moi, je dirais au contraire, c'est-à-dire que je pense à Navalny. Vous savez, Navalny, la veille de sa mort, on a vu une vidéo de lui. Il rigolait, il blaguait, et il y avait même le policier chargé de le surveiller et les juges qui rigolaient parce qu'il faisait une blague. Et il a apporté, lui c'est un exemple parmi tant d'autres, mais de gens qui sont dans des situations très difficiles, dans des situations de souffrance, etc., et qui réussissent à transmettre quelque chose de l'ordre de la joie, enfin de la bonne humeur en tout cas. Et je crois que souvent, vous savez, dans les situations d'oppression difficiles, bah, une des meilleures armes, c'est les blagues, c'est la bonne humeur, et c'est une manière de transformer le tragique en quelque chose d'un peu plus léger et de le rendre un peu plus supportable.
Michel Lejoyeux.
Vous savez, ce qui est étonnant, c'est que plus on vit des situations tragiques collectives, et globalement, moins on est de mauvaise humeur pour des détails. Il y a des données de fréquence des dépressions qui montrent que dans les périodes épouvantables de guerre, de menaces, les gens sont plutôt moins déprimés. J'allais presque dire tristes, anxieux, mais pas forcément plus de mauvaise humeur.
Votre regard, Olivier Gazalet.
Sur le rire ou sur la bonne humeur?
Non, sur la bonne humeur, justement. Oui, sur les liens entre la joie, la gaieté, le bonheur, cette bonne humeur qui semble moins grandiose que ces grands concepts comme le bonheur, la joie.
Le bonheur, c'est peut-être ce qui nous permet de résister à la mauvaise humeur. C'est un état plus profond. En fait, les grands sages grecs n'ont cessé de chercher un état qui était l'état d'ataraxie, c'est-à-dire absence de trouble. Donc, on pourrait dire en langage moderne, absence de mauvaise humeur. Donc, mais il donnait à cette ataraxie une dimension spirituelle, alors que nous, on cherche plutôt l'allègement. En fait, moi, je vois plutôt l'histoire de bonne humeur, mauvaise humeur en termes de poids et en termes de lumière. C'est-à-dire que quand on est de bonne humeur, il y a une sorte de légèreté, on est tiré vers le haut et tout est lumineux. Tout semble facile, tout semble à portée de main. Et la mauvaise humeur, c'est quelque chose qui nous écrase, qui nous abat, qui est un poids et qui est sombre. C'est un peu le ciel bas et lourd de Baudelaire. Alors que, voilà, ce qu'on cherche, c'est évidemment la légèreté qui nous... Mais je pense qu'il faut souligner que dans la mauvaise humeur, il y a aussi un élan créatif possible. C'est-à-dire qu'on peut... Elle est très féconde aussi, la mauvaise humeur, ou l'indignation, la révolte, la colère. Je ne sais pas tout ce qu'on peut mettre derrière le mot mauvaise humeur, tous les affects négatifs, la dimension tragique de l'existence, si on l'affronte, elle peut être aussi à l'origine d'une allégresse, parce qu'on a dépassé justement tout ça. Et on n'est jamais plus heureux quand on s'est relevé du malheur, en fait.
Frédéric Schlifter, vous partagez ce que nous dit Olivier Gazalé.
Oui. Alors, bon, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient de se dire. Moi, je pense à une citation de Nicolas de Champfort qui disait « Une journée, et là, je pense à Olivia, une journée où on a Paris est une journée perdue. » Et le rire, en effet, on l'associe à la bonne humeur. Mais le rire peut venir du désespoir, hein, comme aussi l'a dit Michel tout à l'heure. Navalny, dans sa cellule, je pense qu'il était... Bon, est-ce qu'il avait encore de l'espoir? J'en sais rien. Mais il faisait rire. Et je pense que le rire ou la bonne humeur peuvent en effet être une humeur qui se fait jour dans un moment où tout semble foutu. Et moi, je sais pas, le mot humeur me fait penser au mot humour, et l'humour, et me semble-t-il, vient toujours du désespoir, quelque chose de la sensation qu'on est dans une impasse, et il n'y a qu'une façon de s'évader de cette impasse, en tout cas, c'est de sortir un mot d'esprit, d'avoir cette espèce de légèreté de l'âme qui qui se manifeste par le rire, justement. Et c'est pour ça qu'à mon avis, les gens qui nous font rire, les humoristes, à ne pas confondre avec les rigolos, parce que les rigolos, on en voit partout à la télé. Moi, ils me font jamais rire, je les trouve plutôt même sinistres. Mais les humoristes...
Mais non.
Alors, moi, je sais pas. Moi, bon, si je m'en tiens aux écrivains, pour moi, les humoristes, Beckett, Cessioran, je citais Champfort tout à l'heure, La Rochefoucauld, enfin, ce sont des gens, si on les lit bien, ce sont des gens qui pratiquent l'humour, et qui pratiquent l'humour parce que, justement, ils savent pertinemment que la condition humaine est une impasse. Et ils nous font rire avec le tragique. Et ils nous mettent de bonne humeur. À l'inverse, si je puis me permettre, les écrivains optimistes qui nous disent mais tout va changer, vous allez voir, tout va... je les trouve parfaitement déprimants, si vous voulez, parce que surtout il manque de deux choses à mon sens, il manque à la fois d'humour et aussi du style en littérature est l'équivalent de l'humour. Enfin, en tout cas, ce sont deux qualités indissociables et qui manquent, hélas, aux écrivains et aux auteurs optimistes.
Olivier Gazalé, humour et humeur ont la même racine.
Oui, humus, la terre. Oui. Et on dit souvent faire preuve d'humour, c'est faire preuve d'humilité. Et tout ça, c'est l'humilité, c'est garder les pieds sur terre. Donc oui, on se retrouve.
Michel Etchaninov.
Oui, c'est, me vient à l'esprit une définition de l'humoriste que j'ai trouvée chez un écrivain français, Jules Renard, qui dit une chose très juste et qui je trouve qu'il fait écho à l'extrait qu'on a écouté en début d'émission, qui est que l'humoriste, c'est un homme qui est de bonne mauvaise humeur. C'est-à-dire que, oui, il râle, mais du coup, il fait rire les autres. Et surtout, l'humoriste, il va transmuer quelque chose de l'ordre de l'indignation, de la colère, de la mauvaise humeur, de la tristesse, en quelque chose de drôle. Et Frédéric dit qu'il y a du désespoir dans l'humour, bien sûr. Il y a aussi parfois juste du décalage. C'est-à-dire qu'en fait, on va changer de pied, on va se regarder soi-même, on va dire, bon, je suis vraiment ridicule. Et tout d'un coup, ça va être drôle. Et donc, il y a toujours un moyen, par l'humour, de changer la mauvaise humeur, peut-être en bonne mauvaise humeur, c'est déjà pas mal.
Professeur Michel Lejoyeux.
Oui, il faut se rappeler quand même que l'humeur, au départ, c'est une définition médicale. Hein, c'est Hippocrate, la théorie des humeurs. La mélancolie, c'est la bile noire. On avait cette théorie des humeurs. Donc, on est quand même... Il faut toujours faire très attention quand on parle de cultiver sa bonne humeur. Il y a aussi 10% de la population, hein, c'est quand même énorme, une personne sur 10, une fois dans sa vie, qui est atteinte d'une maladie dépressive. On pourra lui faire lire tous les philosophes, exactement, on pourra lui donner tous les exemples. Elle a besoin d'être traitée. Donc, n'oublions pas cette double entrée. Perte d'envie, perte d'estime de soi, perte d'énergie. Pendant plus d'un ou trois mois, on demande aussi un avis médical et on se rappelle un peu Hippocrate et les humeurs.
C'est-à-dire, Michel Lejoyeux, qu'une mauvaise humeur permanente qui dure, mais vraiment du matin au soir, pendant deux, trois mois, c'est peut-être le signe qu'on traverse un épisode dépressif ?
Très clairement. Perte d'envie, perte d'énergie, perte du sommeil, pendant un à trois mois, ça nécessite un avis médical. Après, la réponse, comme en médecine, va être compliquée. Heureusement, on n'a pas une machine face à soi. Mais il est important, dans ce cas-là, de demander un avis, de se dire qu'on engage aussi sa santé, parce qu'on va faire monter sa tension, mettre son cœur en difficulté.
À propos de santé, Olivia Gazalet, donc on l'a dit, un antidote à la mauvaise humeur ambiante, c'est sans doute le rire. Vous consacrez un passage de votre livre au corps riant, à cette onde de plaisir. Vous posez la question suivante, comment expliquer qu'un stimulus anodin, intellectuel, puisse avoir un tel retentissement organique sur notre bonne humeur, sur notre santé. Et l'anthropologue David Le Breton, que vous citez dans votre livre, montre le lien entre le rire et les soubresauts du corps. Rire en pisser dans sa culotte, se taper le cul par terre, on hoquette, on crève de rire, on se poêle, on rit comme un dératé, on rit à gorge déployée, on est pété de rire. C'est quand même assez fabuleux, hein.
Oui, d'ailleurs, Freud explique bien cette transformation de l'émotion négative qui est en fait déviée brusquement, métabolisée dans les secousses jouissives de l'hilarité. Et ce qui fait que c'est un bienfait, enfin, ça a des vertus thérapeutiques exceptionnelles, le rire. Il faut quand même rappeler que c'est bon pour tout, pour la santé. C'est bon pour la circulation sanguine, pour le cœur, pour les poumons, pour le cerveau, pour les muscles, pour la digestion. J'en oublie la pression artérielle, le sommeil. Et la longévité, ça nous permet de vivre plus vieux. Et puis, on l'a dit, ça favorise la libération dans le cerveau des hormones du bien-être, comme les endorphines, la dopamine. Mais c'est pas seulement pour des raisons chimiques que le rire chasse la mauvaise humeur. Je dirais qu'il y a aussi le fait que le rire, ça crée des liens de connivence entre les êtres, ça crée des liens de sympathie, ça nous permet aussi de subvertir les interdits, de questionner un peu les conventions, etc. Et tout ça fait que ça allège le monde, en fait. Et questionner le monde, ça l'allège, en fait.
Et Voltaire écrivait à son ami Madame Bentinck que « Gaieté vaut mieux que médecine ». Et Rabelais, qui signait docteur en médecine, écrivait « Vivez joyeux ». Professeur Lejoyeux.
Oui, c'est ça. La médecine a un tout petit peu progressé depuis Rabelais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la bonne humeur, le sourire, le rire, ça permet d'avoir des copains. Ça permet d'avoir un entourage. Même si vous passionnez votre entourage en annonçant des catastrophes, en les décrivant, vous allez garder des amis plutôt en étant d'un commerce agréable. Et ça, toutes les données vont dans le même sens. Plus on est optimiste, plus on est souriant, plus on est entouré. Puis il y a une chose amusante, plus on est de bonne humeur, plus on croit dans les conseils de son médecin. Vous savez, il faut être très optimiste pour croire au message de prévention, pour croire à celui qui vous dit quand vous ne fumez pas, vous allez vivre mieux plus longtemps. Donc là aussi, la bonne humeur va permettre permettre d'intégrer la médecine. Je vous expliquerai, monsieur Rabhi, qui a changé depuis Rabelais. Les médecins ont un tout petit peu, ne sont plus exactement les mêmes.
Et vous rappelez, Olivier Gazalet, dans votre livre, que désopiler signifie déboucher les conduits naturels, et notamment la rate, qui était longtemps considérée comme le siège du rire.
Oui, ce que disait le professeur Lejoyeux, c'est que la médecine a longtemps été gouvernée par cette théorie des humeurs d'Hippocrate, et en fait, on pensait que la mauvaise humeur, les humeurs mélancoliques, étaient retenues par la rate, et qu'il fallait rire pour s'en débarrasser. Donc, se désopiler, étymologiquement, c'est désobstruer les canaux, c'est vider les canaux. Donc, il y a un aspect presque mécanique.
Michel Etchaninoff.
Ouais, le problème, c'est que ça ne se commente pas, le rire. C'est-à-dire que si on connaissait la médecine par le rire, bah, ça serait génial. Or, on peut vous faire plein de blagues. On a fait un reportage là, dans Philosophie Magazine sur les clowns dans les hôpitaux. Bah, il y en a, ils sont tellement mal, des ados. Il y a des gens qui ont fait des tentatives de suicide, etc., qu'ils ne riront pas. Alors, il y aura un contact qui serait établi. Il y aura une forme peut-être d'empathie, effectivement, qui se créera avec ces clowns qui vont dans les hôpitaux. Mais ce n'est pas une médecine infaillible, parce que ça ne se commande pas, parce que l'humeur, ça ne se crée pas, ça ne se muscle pas, comme on dit souvent, on muscle le cerveau avec du sudoku. Ça ne marche pas comme ça, c'est plus compliqué.
Tellement d'accord avec vous, vous savez. C'est bien ce que vous dites là.
Une question avant le disque. Qu'est-ce qui vous met autour de la table de bonne humeur en ce moment, Frédéric Schifter?
Oh, moi, au fond, je suis assez facile à vivre, hein, d'une façon générale. Et non, ce qui me met de bonne humeur, j'entendais là à l'instant le fait que le rire permettait d'avoir des bons copains, etc. Moi, je pense que l'un des secrets pour être de bonne humeur, c'est de voir le moins de monde possible, de cultiver une certaine solitude. Je ne parle pas de l'isolement, hein, mais oui. D'être plutôt... Vous savez ce que disait Montaigne, il ne faut se donner qu'à soi-même et ne se prêter, et se prêter à autrui. Et je pense que pour être équanime, hein, c'est-à-dire d'une humeur égale, eh bien, je pense qu'il faut voir le moins de monde possible, parce que j'ai constaté la rapidité avec laquelle les autres, moi, me mettaient de très mauvaise humeur. Et donc, voilà, c'est un des conseils que je donne. Mais alors après, on peut avoir besoin des autres. Hein.
Et pourtant, Frédéric Schifter, vous professez un certain pessimisme, mais vous êtes plutôt d'un commerce agréable. C'est ça le paradoxe aussi avec vous.
Bien entendu. Les Balzac parlait des optimistes qui pètent de santé. Il les fuyait, d'accord. Et une chose aussi, à propos du rire et de la bonne humeur constante ou du bonheur ou de l'euphorie, Proust, c'est dans le temps retrouvé, dit au fond les mois, les journées, les années où nous avons été heureux, prenant le contre-pied de Champfort, ont été des années perdues pour l'écriture, parce qu'il pense que effectivement dans cette l'amorosité, la tristesse, la mélancolie sont des états qui sont propices justement à, comme si la mélancolie était une muse, si vous voulez. Et je crois qu'il n'a pas tort. Quand on rit, quand on est vraiment très très heureux, on n'a nulle envie d'écrire ou de faire quoi que ce soit. On est tout à sa joie, on est complètement, on fait un avec sa gaieté. Et dans ce cas-là, on n'a pas envie on n'a nul désir d'écrire ou de composer de la poésie, de la musique ou je ne sais quoi. On est dans l'instant. La mélancolie nous met à distance du monde et nous donne l'envie, le désir d'écrire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Dites-nous au 01 45 24 7000 ce qui vous met de bonne humeur en ce moment. Nos invités nous le diront dans quelques instants. Et faut-il d'ailleurs cultiver sa bonne humeur à tout prix? Ce sera juste après avoir écouté Alain Souchon, J'ai 10 ans, une chanson sortie, rendez-vous compte, il y a 50 ans exactement, 10h29 sur France Inter.
J'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais
en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire. Je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches. J'ai 10 ans, les filles c'est les cloches. J'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai des prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tarde ta gueule à la récré.
Alain Souchon interprété J'ai 10 ans.
Ah, quel mépris! 2 heures de retard.
Grand bien vous fasse.
Tu sais très bien que je suis plus à cheval que toi sur certaines choses.
Ali Rébéi.
Mais tu es toujours à cheval. Tu passes ton temps à cheval. Descends, détends-toi, souffle un peu.
Je n'ai pas envie de descendre, figure-toi, je me sens très bien à cheval. Je préfère être à cheval qu'à genoux.
Sur France Inter.
Comment cultiver sa bonne humeur comme Jean-Pierre Bacri dans cet extrait? Et faut-il d'ailleurs la cultiver à tout prix? C'est notre thème ce matin avec le mensuel Philosophie Magazine. Tiens, Michel Lejoyeux, je rappelle que vous êtes psychiatre. Je disais en introduction, ce qui me rend heureux moi, en ce moment, c'est de faire du pain maison, de la brioche. Vous le dites dans votre livre « Les 4 saisons de la bonne humeur », quand on pratique une activité manuelle, physique, qui nous plaît, marcher, courir, jardiner, pâtisser, cuisiner, on en ressent des effets très directs sur notre humeur. Pourquoi ?
Bien sûr, d'abord on est concentré sur un instant présent. Ce qui est important, c'est d'être dans cette activité. Hein, pour avoir aussi, comme Frédéric Schlitter, adapté Montaigne hein, sur la bonne santé... Montaigne disait quand je me promène dans un jardin, je suis dans le jardin. Et puis n'oublions pas aussi qu'en général sa pâtisserie, on va pas la manger tout seul, et que ce qui va vraiment nous rendre de bonne humeur, et ce qui nous rend de bonne humeur, ce sont les quelques relations les plus authentiques, les plus fortes qu'on a dans sa vie. Vous savez, si on revient sur Montaigne disait on a toujours trop d'amis et des amis superficiels. Mais cultiver l'instant présent et des relations fondatrices, ça c'est indiscutablement, ça va nous mettre de bonne humeur et ça va même protéger de l'apparition des maladies dépressives qui, si elles sont là, évidemment doivent être dépistées et traitées.
Quand on pratique une activité manuelle ou physique qui nous plaît, on se retrouve dans ce que les psychologues et les psychiatres appellent l'état de flow, si bien décrit par le psychiatre américain Mihaly Csikszentmihalyi, cet état de flow où l'on est concentré sur quelque chose qui nous plaît, où le temps se dit dilate. Il faut que ce soit une activité suffisamment difficile pour être un peu challengé, mais pas trop facile parce que sinon on s'ennuie. Là, cet état de flow permet de cultiver sa bonne humeur.
Absolument. Et il faut quand même qu'il y ait du mouvement. Oui. Hein, une étude, là encore très récente, dans une très bonne revue nord-américaine de psychiatrie, qui montre que 3 séances d'activité physique modérée, mais qui quand même vont mobiliser le corps par semaine, ont un effet qui, dans certains cas, est comparable à celui d'un antidépresseur. Donc oui, on fait quelque chose, mais pas devant un écran, en bougeant, en y faisant participer son corps.
Michel Elchnadinov, je rappelle que vous êtes co-rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Vous avez donc mené l'enquête pour savoir d'où vient la bonne ou la mauvaise humeur, et vous avez interrogé un spécialiste de la médecine antique, un endocrinologue, un neuropsychologue et une psychanalyste. conclusion.
La conclusion, les hormones sont importantes, mais elles font pas tout, parce que y a les neurohormones qui sont un peu indépendantes qui jouent leur rôle, si j'ai bien compris.
Comme la dopamine ou la sérotonine.
Voilà. Donc c'est important, mais ça fait pas tout. L'alimentation, l'activité sont essentielles. Ce qui est intéressant à la fin, c'est que la psychanalyse nous explique que quand même, la bonne et la mauvaise humeur, ça dépend de ce dont on a rêvé juste avant. C'est-à-dire, on dit toujours, on se lève du bon pied ou du mauvais pied. Bah oui, c'est vrai. On voit tout de suite si on est de bonne ou de mauvaise humeur. Mais en fait, il y a toute une activité qui précède. Comment on a dormi? Qu'est-ce qu'on a rêvé? La plupart du temps, on se souvient pas. Moi, cette nuit, j'ai fait des rêves pas terribles, je le sais. Et ça, je m'en souviens un peu. Bah, c'était pas évident de se mettre de bonne humeur le matin. Et donc, il y a un travail de l'inconscient aussi. C'est-à-dire que le rêve va un peu coaguler, transformer ce qu'on a vécu dans la journée ou dans les jours précédents. Et donc, le rêve va les transformer. On va voir ce qui nous angoisse, ce qui nous inquiète. Et parfois, ça va jouer pendant la nuit. Et donc, le réveil, on se lève jamais dans un commencement absolu. Il y a toujours quelque chose qui précède. Donc, le rôle de l'inconscient et de nos rêves est important, je crois.
Michel Lejoyeux, pourquoi est-ce que lorsqu'on a passé une mauvaise nuit, quand on a mal dormi, pourquoi cela a un impact très très direct sur son humeur? À titre personnel, comme nombre d'entre nous sans doute autour de la table et parmi nos auditeurs, quand j'ai pas beaucoup dormi, je suis d'une humeur très moyenne.
Bien sûr, alors l'impact est double. Alors c'est formidable de faire référence à l'inconscient, comme de toute façon c'est invérifiable, on peut toujours y faire référence autant qu'on en veut, hein, et dire mon inconscient dans la nuit,
même une mauvaise humeur,
c'est un ennemi qu'on ne voit jamais, donc celui-là on peut travailler avec autant qu'on veut.
Vous répondrez après, Michel Echanino.
Avec plaisir.
Si on a quelques éléments peut-être neurobiologiques là-dessus, ce qu'on sait c'est que le vrai sujet c'est la poule et l'œuf. Quand on est de mauvaise humeur, on fait des mauvais rêves, on fait des cauchemars, et il y a une sorte de désorganisation biologique du cerveau qui apparaît. La deuxième chose, c'est qu'on peut agir maintenant avec des thérapies comportementales sur son sommeil, et en changeant le contenu de ses rêves et la nature de son sommeil, on va agir sur son humeur, peut-être en prévenant son inconscient qu'on lui a fait du bien.
Michel Echaninoff.
Oui, moi je veux pas me lancer dans une grande polémique sur l'utilité de la psychanalyse, mais Béatrice Itier, ce qu'elle dit, c'est que l'inconscient, c'est pas une poudre magique qui va expliquer vos états, c'est simplement que on se souvient pas de ce dont on a rêvé, et pourtant on l'a rêvé. Donc on a des bribes qu'on essaie de reconstituer tant bien que mal, donc il y a des choses dont on n'est plus conscient au réveil, et donc ensuite on en fait, on lui donne l'importance qu'on veut, mais il est évident que ces choses dont on ne se souvient plus, comme la petite enfance d'après la psychanalyse, mais aussi comme les rêves, eh bien influent de manière donc inconsciente ou en tout cas vague sur notre état présent. Donc ça ne veut pas dire que quand on a une mauvaise humeur, on fait des mauvais rêves.
Si, ça veut dire, c'est vrai.
Peut-être. Mais ce que dit ici Béatrice Itier, c'est que quand on fait des mauvais rêves, c'est plus difficile de se remettre de bonne humeur.
Peut-on s'obliger, Michel Echaninoff, Olivia Gazalet, est-ce qu'on peut s'obliger à être de bonne humeur sur commande? Ça ne se décrète pas, la bonne humeur.
Là-dessus, moi, il y a un film que j'adore, c'est un Pixar, c'est Vice Versa. Ah oui. Vous savez, c'est des petits bonshommes qui font les émotions. Et alors, la petite fille, elle est tout le temps joyeuse quand elle est petite. Et puis, à un moment, elle devient adolescente, et donc tristesse, colère, peur, etc. Et en fait, ce dont on se rend compte dans le film, c'est qu'on ne peut pas toujours garder la pleine forme, et que les émotions même dites négatives, par exemple tristesse ou peur, quand elles se mélangent avec de la joie, ça va donner de la nostalgie. Et qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est les modulations d'humeur. Ça ne veut pas dire être tout le temps balancé entre fureur et béatitude. Ça veut dire juste que notre journée, c'est justement, vous citiez le mot flow tout à l'heure, notre journée, c'est une rythmique. Et forcément, quand on va sortir dans la rue, qu'on va rencontrer un SDF, on ne sera pas de la même bonne humeur, heureusement, que quand on aura vu le soleil le matin. Donc en fait, il va y avoir des variations, et peut-être qu'il ne faut pas se créer une sorte de... Il ne faut pas se gonfler à bloc de bonne humeur, ça serait absurde, puis ça nous rendrait surtout très indifférents au monde. En revanche, essayer de maîtriser un tout petit peu cette rythmique, faire que votre journée ne soit pas totalement plombée, ça, à mon avis, c'est un surf possible.
Olivia Gazalet.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'idée d'une fluctuation, parce que ça, c'est très volatile, l'humeur. Une bonne nouvelle peut vous mettre de bonne humeur, et puis une mauvaise, 10 minutes après, peut vous remettre de mauvaise humeur. Mais plus largement, l'injonction à la bonne humeur, moi, je la trouve un peu problématique. C'est par exemple Alain qui a dit dans ses propos sur le bonheur que si j'avais par aventure à écrire un traité de morale, je mettrais la bonne humeur au premier rang des devoirs. Donc ça, moi, je trouve ça un peu problématique parce que ça génère d'abord une culpabilité de la part des gens qui n'arrivent pas, pour toutes sortes de raisons, à être de bonne humeur. Et puis, on a tendance à pathologiser les humeurs négatives. Tout à l'heure, le professeur Lejoyeux, qui est un thérapeute, donc bien sûr que la dépression doit être prise en charge. Mais comme le disait Frédéric Schiffer, moi je suis très d'accord avec l'idée aussi qu'il y a une fécondité de la mélancolie et de l'humeur noire. D'ailleurs, il suffit de lire les grands romantiques, ils ont fait de l'humeur noire. Beethoven, s'il avait été tout le temps de bonne humeur, bon, voilà. Et je suis même pas sûre que Mozart, qui avait fait une musique beaucoup plus légère, n'était pas non plus un grand gay, même s'il avait des grands éclats de rire. Voilà, donc il y a quand même quelque chose qui est un peu de l'ordre normatif et un petit peu écrasant dans cette idée qu'on doit absolument être tout le temps de bonne humeur. On ne peut pas. Moi, je suis désolée, les nouvelles en ce moment, vous parlez de la guerre en Ukraine, mais il y a aussi une guerre au Proche-Orient qui peut mettre sérieusement de très très mauvaise humeur.
D'ailleurs, Michel Lejoyeux, dans les quatre saisons de la bonne humeur, vous défendez la nostalgie, qui est une émotion mixte.
Absolument. Et je défends une humeur fluctuante. Les gens qui sont tout le temps heureux d'extrêmement bonne humeur, ça s'appelle un accès maniaque, on les hospitalise. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Une humeur normale et fluctuante, une humeur normale et réactive à l'environnement. D'ailleurs, le mot émotion vient de motion. L'émotion bouge. La vraie maladie, c'est ce qu'on appelle l'alexithymie, l'incapacité à avoir des émotions. Donc tant qu'on a des émotions. Mais il y a une sorte de bon sens qu'il faut essayer d'avoir. Évidemment qu'un thérapeute, un psychiatre, un médecin ne va pas vous transformer en une espèce de personnage hilar en permanence. Mais vous voyez, c'est criminel de ne pas quand même se dire qu'une des maladies les plus graves, le suicide, c'est la première cause de mortalité avant 40 ans. Donc chez un ado qui va être en permanence de bonne humeur, de mauvaise humeur, qui va être en permanence sans envie, en perte de l'estime de soi, là on ne va pas lui sortir Dostoïevski et les grands créateurs. On va lui dire, là, tu as peut-être une maladie et on va peut-être te traiter. Parce que moi, je le vois dans ma pratique. Je vois des familles extrêmement intellectuelles, intelligentes, qui vont rationaliser, dire ça doit être dans l'inconscient, tout ça, et qui, au fond, ne vont pas traiter ces maladies de l'humeur. Donc, on a un double sujet. Respecter la fluctuation de l'humeur, respecter la fluctuation émotionnelle, et quand même, c'est un enjeu collectif, traiter nos malades de l'humeur.
Michel Etchaninov.
Oui, et comme le dit justement dans notre enquête Gilles Pourtois, qui est psychiatre. Ce qui est intéressant dans la bonne humeur quand même, c'est qu'elle permet d'avoir une attention plus large. C'est-à-dire que quand on est de mauvaise humeur, on se renferme. Dans le métro, quand on est de mauvaise humeur, on se renferme vraiment sur son portable, sur son bouquin, etc. Dans la mauvaise humeur, on regarde le monde, il nous fait sourire, on est joyeux, on trouve des nuances
de beauté.
On se déploie. Et puis on trouve que les gens sont plutôt sympathiques, on a envie presque de leur sourire, même si ça ne se fait pas, etc. Parfois on le fait. Eh bien, il y a une sorte de créativité à ce qu'on appelle justement en psychiatrie cette attention divergente. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des liens, etc. Donc, la bonne humeur, quand même, ça ouvre et ça permet peut-être d'être plus créatif.
Frédéric Schiffer, sur cette injonction à la bonne humeur évoquée par Olivia Gazalé.
Ah oui, mais je suis bien d'accord avec Olivia. C'est vrai qu'il y a quelque chose de culpabilisateur. Il faudrait, comme ça, que la société soit peuplée de gens hilars, souriants, conviviaux, comme si les humains, au fond, étaient des êtres sans passion, sans désir. On sait bien que les désirs sont les plus souvent belliqueux, que les passions sont hostiles. Enfin, donc, pour prendre une espèce d'élément de langage qu'on attribue à Spinoza, il y a beaucoup plus de passions tristes que de passions joyeuses. Et je rajouterais ceci, c'est que on parlait de fluctuation des émotions, je pense que je vais beaucoup plus loin, c'est-à-dire que les émotions, bien sûr, nous ne les décrétons pas, ni la mauvaise humeur, ni la bonne humeur, ni quoi que ce soit, nous sommes ballottés par nos émotions, nous sommes les pantins de nos émotions, et nulle discipline, nulle ascèse, nulle sagesse ne peut faire de nous des stoïciens, des épicuriens avec l'apathie, l'ataraxie, etc. Nous sommes vraiment les jouets de nos émotions. Alors il y a peut-être des moyens de nous euphoriser, je sais pas, j'en sais rien, je pense à des substances chimiques. On parlait jadis du Prozac, etc. Il y a peut-être d'autres, l'alcool ou je ne sais quoi. Mais enfin, il y a l'alcool mauvais. Je pense qu'il doit y avoir des substances chimiques qui sont tout aussi abrutissantes. Et je pense que justement, la médecine de l'âme, je pense à la psychiatrie, à la psychanalyse, montre que ce sont finalement toujours des disciplines un peu vouées à l'échec. Parce que le psychisme humain est véritablement un bouillonnement, un magma d'émotions divergentes, contradictoires, et c'est difficile de fixer l'humeur. Enfin, et puis d'ailleurs, vouloir fixer l'humeur, ça me paraît assez dangereux. Je crois que l'humain, il est justement, alors, à ce que ce soit pour l'enlouer ou le déplorer, l'humain est un être malade, comme disait Schopenhauer. C'est un animal malade, et de ce fait, il est malade de ses émotions. Donc,
merci de nous remonter le moral, Frédéric.
Non, mais c'est vrai. Sur l'alcool, quand même, un mot. C'est toujours
vous avez raison, Frédéric.
Alors après, on peut toujours faire appel au rebouteux de l'âme, au marabout, je ne sais quoi. Mais le problème est que, généralement, me semble que l'homme sera toujours malheureux d'être, quoi. Voilà, il y aura toujours un symptôme, si vous voulez.
Michel Lejoyeux.
Un tout petit mot sur l'alcool, quand même. C'est toujours déprimant, l'alcool. Même si une consommation ponctuelle d'alcool est évidemment agréable, toute consommation régulière d'alcool augmente le risque de dépression.
Claude nous dit « Ce qui me met de bonne humeur, c'est de réaliser qu'à 78 ans, je suis autonome, je marche, je danse, je peux encore traverser la France en voiture. Je profite donc de ces années sans travail avec bonheur. Je suis bénévole dans plusieurs associations. Natacha a cultivé ma bonne humeur en cultivant les légumes du jardin si j'ai les idées noires ou si je suis de mauvaise humeur. Je mets les mains dans la terre, donc dans l'humus, Olivia Gazalet. Je regarde la nature s'épanouir. Je crois qu'il y a une odeur, des émanations dans la terre, qui sont euphorisantes. Et puis Marie-Laure qui nous écrit « J'ai pour habitude de dire, la bonne humeur, c'est aller bien, même quand ça va mal. C'est ainsi que je le vis. » Allez, il est temps de retrouver notre ours grognon du mardi, Éric Libio, et ses choses presque vues.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
Éric Libio.
Alors c'est bien gentil Ali hein, de se poser la question de savoir s'il faut cultiver sa bonne humeur, mais on peut aussi se demander pourquoi il faudrait cultiver sa bonne humeur. Personnellement, je cultive mon humeur de râleur, et oui, j'aime bien râler me va bien au teint. En ce moment, par exemple, je suis un râleur d'été et je m'agace d'en avoir perdu une ce week-end. Perdre une heure, c'est un sommeil perturbé, et chacun sait Ali qu'une mauvaise nuit. Ouais. Dans 6 mois, je serai râleur d'hiver, comme divers râleurs que je connais. On gagnera alors 1 heure de sommeil en plus, ou 1 heure d'éveil en plus, c'est selon, et je trouverai bien une raison pour râler, car le râleur attend tranquillement son heure. Comme disait l'autre, rien ne sert de courir, il faut râler à point. Il faut râler à point, d'ailleurs, oui. Si on veut bien faire voilà. La liaison. On sait bien, ce changement d'heure a l'heure de plaire uniquement à ceux qui nous gouvernent, alors que nous sommes nombreux à râler contre ce changement d'heure, mais ne plus changer d'heure me ferait autant râler, puisque dans ce cas-là, je n'aurais plus raison de râler. Voilà ce qu'il y a de formidable avec le râlage, c'est qu'il est toujours possible, et c'est d'autant plus formidable que le râlage ne s'arrange pas avec l'âge. Alors pourquoi râler, Ali ? Eh bien parce que râler, c'est se tenir éveillé, c'est ne rien accepter comme agent content, mais tout accepter comme argent mécontent. Alors je suis aussi un râleur de pointe, surtout dans les transports en commun. Trop de gens, pas assez de métro ou de bus, et je le vérifie tous les jours, car le bon râleur est proche du quotidien. Le bon râleur ne se permet pas de donner son avis sur des sujets qu'il ne connaît pas. Le râlage n'a rien à voir avec l'ultra-crépi-darianisme, qui est un comportement consistant à donner son avis sur des sujets qu'on ne connaît pas du tout. Ce râleur-là n'est pas digne d'en être, parce qu'en être, c'est du boulot, et il faut savoir remettre les pendules au râleur. Le bon râleur est un râleur local, il faut savoir de quoi on parle pour savoir de quoi on râle, c'est important. Il y a trop de râleurs qui se la jouent à râler n'importe où, car râler dans la bonne direction, c'est pas si facile. Et il ne faudrait pas confondre râler et comploter. Comploter, c'est penser que rien n'est vrai, alors que râler, c'est penser que tout peut s'améliorer. D'ailleurs, dans comploter, il y a con, alors que dans râler, non. Râler, c'est imaginer qu'une humanité meilleure est possible, il faut râler à son échelle, et si chacun râle à son échelle, on peut râler plus haut. Il ne faut pas non plus opposer râlage et mauvaise humeur. La personne de mauvaise humeur se regarde le nombril, se révèle égotique et risque l'ulcère. Or, il faut savoir que l'ulcère a rien et qu'on peut l'éviter, justement, en râlant. D'autant qu'il est possible de râler de bonne humeur. Non seulement il est possible de râler de bonne humeur, mais il met de bonne humeur. Mais râler met de bonne humeur, pardon. Je propose donc qu'on change un peu les paroles de la Marseillaise, devenue la Rouscaillaise, qui pourrait débuter par « Râlons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé ».
Frédéric Schifter, vous reconnaissez dans ce portrait de râleur ?
Mais bien sûr, enfin, il a râlé, encore une fois. Il y a des choses qui nous font râler, d'autres non. Ce qui me fait râler, moi, laisse l'autre indifférent. Mais on voit bien que nous ne sommes pas maîtres du tout de nos émotions. Et puis, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, à propos de l'homme est un animal malade, je veux dire que, regardez même l'objet de notre émission, de votre émission, elle montre bien que la bonne humeur pose problème. Est-ce qu'on peut l'obtenir? Est-ce qu'on peut la maîtriser, etc. On voit bien qu'il y a un problème, en tout cas, avec les humains et leurs émotions. Donc, je pense que toute sagesse qui vise, et ça, je vise aussi bien les philosophes de l'Antiquité, hein, toute sagesse qui vise à vouloir faire en sorte que l'humain ne soit pas ce qu'il est, c'est-à-dire un être ballotté par ses émotions, c'est une sorte de, je dirais, une sorte de charlatanerie, si vous voulez. Voilà. C'est,
Michel Echanino, vous êtes d'accord?
Allez, au mieux, c'est une utopie. C'est une utopie.
Pas du tout. non, c'est-à-dire que je pense que l'humeur, évidemment, elle se crée pas, elle se malaxe pas, on la sculpte pas. Mais on peut peut-être l'attraper au vol. Et là, la philosophie peut quand même un petit peu aider. Moi, c'est très personnel, mais dans les transports, eh ben, le stoïcisme, ça m'aide un peu. Je me dis, bon, tout le monde est énervé, les gens se parlent pas, tout le monde fait la gueule. Je me dis, bon, ça ne dépend pas de moi, comme Épictète, hein, ça ne dépend pas de moi. Donc je n'ai pas à en être affecté. Bah, je suis désolé, mais moi, ça m'aide un peu, parfois. Alors, un tout petit peu, dans les transports, hein, pas dans toute la vie. Mais je crois que la philosophie peut un peu aider, non pas à devenir un saint, un ange, qui de toute façon n'existe pas, mais à devenir quelqu'un qui est quand même cette espèce de créativité de la bonne humeur. Parce que la bonne humeur, je suis d'accord que la mélancolie peut faire des grandes œuvres, mais la bonne humeur, pas du tout la bonne humeur béate et l'optimisme forcé que décrit Frédéric, mais une sorte d'énergie créatrice dont parle Nietzsche, qui peut, à mon avis, transpirer sur les autres et sur ce qu'on fait.
Toutes les chroniques d'Éric Libiot sont à retrouver sur l'appli Radio France, et nos invités nous diront enfin ce qu'il aimait de bonne humeur. En ce moment, ce sera juste après avoir écouté Romy qui interprète Enjoy Your Life.
My mother says to me, enjoy your life. My mother says to me,
I'm too afraid to
interprété Enjoy Your Life.
Grand bien vous fasse.
Je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas.
Sur France Inter.
Comment cultiver sa bonne humeur et faut-il d'ailleurs la cultiver à tout prix? C'est notre thème ce matin avec Philosophie Magazine. Tiens, écoutons le très regretté Jean-Pierre Bacri.
Faut pas applaudir sans arrêt comme ça, on n'est pas sur TF1. Ça, on vous l'a dit au départ. Hein. On rit quand c'est drôle, quand c'est pas drôle, on reste comme ça, on regarde. On attend qu'il y ait un truc nouveau qui soit drôle. Hein, c'est vrai, c'est ça quoi, le truc.
En plus.
Il faut qu'ils s'habituent les gens à pas rire quand c'est pas drôle. Il faut qu'ils disent bon, ben c'est pas drôle, moi je m'en foutrai pas. Toi, tu vois. J'ai pas gagné au loto, j'ai rien à vendre à personne. Bon, j'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Hein, je suis un être humain, je suis pas un animateur. Il y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, là, comme des crétins.
La mauvaise humeur salutaire de Jean-Pierre Bacri dans une émission de France 2 diffusée le 12 septembre 1991. Tiens, autour de la table, pour terminer, qu'est-ce qui vous met de bonne humeur en ce moment, Olivier Gazalet? Je rappelle que vous publiez Le paradoxe du rire.
Bon, à part écouter France Inter et quand bien vous fasse. Non, plus sérieusement, moi, je suis en ce moment souvent en colère et indignée par le monde comme il va. Et les choses qui me mettent de bonne humeur, en gros, c'est la joie des gens que j'aime. Et si je suis toute seule, je joue du piano. Et
qu'est-ce que vous jouez d'ailleurs?
Essentiellement du classique, mais beaucoup de Mozart, de Schubert, de Bach. Voilà. Ça me met de bonne humeur.
Michel Etchaninoff, co-directeur de la rédaction de Philosophie Magazine.
Ce qui me met de bonne humeur ce temps-ci, c'est vrai que quand je vois ces conflits terribles, ce qui me met de bonne humeur, paradoxalement, c'est une colère qui mène à l'engagement. C'est-à-dire, on en a interrogé Slavoj Žižek en lui demandant qu'est-ce qui vous met de bonne humeur. Il me dit, moi, c'est quand je suis en colère, quand je suis énervé, ça me met de bonne humeur, ça donne envie de m'engager. Et c'est vrai qu'il y a un aspect aussi quand même d'action dans la mauvaise humeur qui se transforme en bonne humeur quand on s'engage, parce qu'on le fait avec les autres. Et quand je vois des Russes aller déposer des fleurs sur la tombe de Navalny, des gens manifestés, des gens simplement des gens concernés par ce qui se passe, par la tragédie à Gaza, par les guerres, je me dis, il y a quelque chose, il y a un élan, il y a une force, et cette force, quand elle est collective, quand elle est partagée, dans tout le désespoir et la détresse dans laquelle on se trouve, ça met quand même un petit peu de bonne humeur.
Et je rappelle que vous avez écrit dans la tête de Vladimir Poutine, qu'il faut absolument lire. Professeur Michel Lejoyeux, vous, tiens, qu'est-ce qui vous met de bonne humeur en ce moment? Et quelle serait votre ordonnance de bonne humeur en ce début de printemps?
Alors, c'est une chose différente. Ce qui me met de bonne humeur, c'est quand j'arrive à oublier tout ce qui pourrait me mettre de mauvaise humeur. Justement, c'est l'inverse de ce que dit mon voisin. C'est-à-dire quand j'arrive à me distraire vraiment par un repas, par une activité physique, par une relation avec des proches, quand au fond notre vie, vous savez, c'est quand même Alain qui disait le pessimisme est de nature, hein, c'est pas nouveau qu'il y ait des motifs de se fâcher, l'optimisme est de combat. Quand j'arrive à éteindre tout ce qui met de mauvaise humeur, moi je me sens de bonne humeur. Et puis on se redit quand même que l'humeur au plan médical n'est qu'un aspect de la santé. Tout ce qu'on fait de bien pour sa santé, autour du physique, autour de l'alimentation, autour d'une pensée qui ne soit pas en tout ou rien, contribue à la bonne humeur.
Et dans Philosophie Magazine, vous nous demandez de nous inspirer de Montaigne pour cultiver sa bonne humeur grâce à une alimentation saine, à des activités variées, à des amitiés entretenues et à des échanges avec autrui. Michel Etchaninoff.
Oui, c'est-à-dire que Montaigne, il croyait à la théorie des humeurs, c'est-à-dire pour lui, la bonne humeur, c'est l'humeur égale. Donc il faut essayer de pas esthétiser sa mauvaise humeur, d'essayer d'être naturel et de mélanger un peu les choses pour que ça se passe à peu près bien.
Merci beaucoup Michel Etchaninoff. Je recommande la saine lecture du tout nouveau Philosophie Magazine. Merci Olivier Gazalet, Le paradoxe du rire. C'est publié chez Segers. Merci Michel Lejoyeux, Les quatre saisons de la bonne humeur, c'est à lire au livre de poche. Merci Frédéric Schifter en duplex de Biarritz. Je recommande la saine lecture de vos aphorismes, délectation morose. Demain, quelle éducation sexuelle pour les jeunes à l'heure de TikTok et de la culture pop ?